RMC.
J'ai eu une vision il y a quelque temps, mais je pense que cette année va être la bonne année.
Where is the casque for John?
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
After Lyon,
Nicolas Jamin.
Salut à toi, adorateurs de Thiago et Milan Barros. Bienvenue dans le podcast After Lyon. À mes côtés cette semaine, Roland Courbis. Salut, coach.
Salut, les amis. Salut, Nicolas. Salut à tous.
Et notre correspondant historique en Rhône-Alpes, Édouard G. Salut, Édouard.
Salut Nico, salut coach, bonjour
salut
à tous.
Cette semaine dans le podcast After Lyon, on va s'intéresser à une des très belles surprises de la saison, ou plutôt de la deuxième partie de saison, initiale bébé. Mais son ami à lui, ce n'est pas les animaux, mais le but adverse, le ballon également. Bradley Barcola, 20 ans, est sorti du chapeau de l'OL en 2023. Il s'est installé dans l'équipe type de Lyon avec une efficacité insoupçonnée en début de saison. Comment en est-il arrivé là? Qu'apporte-t-il à l'OL? Quelle est sa marge de progression? Vous écoutez le podcast After Lyon spécial Bradley Barcola. C'est parti.
Voilà le ballon pour Barcola et le but lyonnais. Eh bien, il en fallait une toute petite. Il a trouvé le premier but de Bradley Barcola en Ligue 1 avec les grands sur une bonne récupération de Maxence Cacré.
Koumbédi qui était venu lui piquer le ballon avec Barcola. Et le but.
Quel match
pour l'Olympique lyonnais. Koumbédi qui était venu piquer le ballon à Cherki. Koumbédi sur l'action suivante qui récupère la balle à droite, qui centre instantanément. Bradley Barcola tout seul au deuxième poteau, qui met la frappe croisée dans le petit filet opposé.
Bradley Barcola pour le but du break. 3 désormais pour les Lyonnais après un festival de Ryan Cherki. Les Lyonnais qui sont totalement renversés en deuxième période.
Et vous avez reconnu la voix, la verve d'Edouard G sur le dernier but commenté, celui de Bradley Barcola. 31 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, 7 buts, 4 passes décisives. Coach, on en parle souvent avec toi à l'antenne d'RMC. C'est un joueur que tu découvres aussi comme nous depuis quelques mois seulement. On ne le connaissait pas il y a un an et demi, Bradley Barcola.
Complètement.
Et tu aimes son profil.
Ben oui, et en plus de ça, ce qu'on ne connaît pas de Barcola, c'est sa marge de progression qui existe. Mais on ne la connaît pas. Est-ce que ça va être 1%, 20%, 50%, 150%? Mais ça, on va le suivre semaine par semaine. Mais tout est réuni pour que, même avec une marge de progression normale, correcte, ça puisse faire un bon, voire même un très très bon joueur.
Il n'a que 20 ans. Il est né le 2 septembre 2002. Édouard, début réussi en Ligue 1. Avant qu'on parle de son profil et de son avenir un peu plus en détail avec coach, dis-nous qui est-il, ce jeune joueur de 20 ans, pur produit de la région, Édouard, et du centre de formation de l'OL.
Ah oui, oui. Oui, oui, né à Villeurbanne, il a commencé à l'AS Buer Villeurbanne et repéré dès l'âge de 8 ans lors d'un tournoi à Vaux-en-Velin de futsal. C'est là qu'il y a beaucoup de scouts de l'académie de l'OL. Ils le repèrent et ils le font venir à l'OL. Donc depuis 2010, hein, il est à Lyon, lui. Ah oui. Il lui a dit qu'il est né en 2002. Donc voilà, c'est vraiment.
Il est arrivé à 8 ans à Lyon, d'accord. Il a fait l'école de foot aussi, ça veut dire.
L'école de foot, voilà, il a tout fait. Et quand je revois un petit peu mes notes, parce que vous savez, peut-être au fur et à mesure des années, je vais un petit peu sonder auprès de Pierre Chavrondier ou d'Amaury Barlet ou de Jean-François Villiers, qui sont bien tour à tour entraîneurs en U17 ou en U19 ou pour le dernier directeur de l'académie. Je note un petit peu des petites choses et puis en fait, que ce soit mes notes dernières ou celles d'avant, on me fait l'éloge de la patience, quoi, en fait, de la discrétion, du travail et du but à atteindre, parce que déjà c'est une famille de footeux, les Barcola, parce que son frère de 4 ans de plus était gardien à l'OL, et donc du coup c'est un couple au niveau des parents où la maman, quand le petit faisait des tournois, était chargée de filmer les matchs pour que le père les visionne. Et puis il y avait une séance, c'est ce que nous racontait une fois Malcolm, le grand frère, de débrief, hein, un peu de la, ça c'était quand il était gamin au centre de formation. Donc on le papa débriefait les images tournées par la maman pour qu'il progresse. Et ils allaient dans un petit terrain à côté. Et puis c'était simple au niveau de l'entraînement. Le papa lui faisait faire des crochets et qui mettait dans le but? Le frère. Comme ça faisait l'entraînement d'attaquant.
Ils étaient complémentaires.
Puis, voilà,
ah bah oui, c'est parfait.
Dire. Exactement.
Un voulait marquer des buts et l'autre il voulait les arrêter.
Un peu comme les fils Zidane, quelque part. 4 garçons, un gardien et 3 joueurs de champ. Exactement, Édouard. Alors, je précise.
Et donc, et simplement pour la précision, donc quand je vous dis l'éloge de la patience, là où tout le monde à 15-16 ans décrit déjà des pépites, il faut déjà que s'ils soient en pro, il faut signer des contrats. Bah, lui, c'est vraiment, il signe son premier contrat pro, il a 19 ans, 13 septembre 2021 jusqu'en 2024, Un an plus tard, il a 20 ans, il signe jusqu'en 2026. Donc c'est un joueur qui est vraiment contractuellement bien verrouillé par l'OL. Et en fait, on retrouve dans les petites notes que j'avais de quand il était à l'académie, un petit peu tout ce qu'on voit maintenant. Quand Jean-François Veillet me parlait d'un joueur qui est élégant, il est beau à voir jouer, il peut t'emmener le ballon, éviter, jouer vite dans la densité, il est complet. S'il s'avère être plus efficace et à tenir sur ses cannes dans les duels, ça va être un truc de fou. C'est ce qu'il me disait il y a à peu près 18 mois. Bah, voyez, un petit peu, on en est là. Et Amaury Barlet me précisait, justement, je vous parlais de son but à atteindre. Aller titiller là-haut, il n'avait que ça en tête. Beaucoup veulent monter très vite. Ben, lui, il a franchi toutes les étapes. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, il récolte les fruits. Parce que franchement, on le découvre cette année, mais mine de rien, il a quand même fait sa première titularisation sous Peter Bosz. Et le 1er mai 2022 à Marseille. Donc il y a un an, après il est passé un petit peu sous les écrans radars de Peter Bosz à l'automne parce qu'il y avait plus d'expérience entre Tété, entre Kaltoko et Cambi. Et puis dernière précision sur son parcours, des fois ça se joue à rien, hein. Il aurait pu éclore ailleurs, mais il y avait un prêt qui était dans l'air début janvier dernier. Okay. Et puis il marque sur en Coupe de France face à Metz. Et puis derrière, donc là il montre qu'il a des choses à l'entraînement, en match. Et puis derrière, il y a l'affaire, on va dire, Kaltoko et Cambi.
Ne va pas trop vite, Edouard. On va remonter sa carrière. Voilà. Là, tu es en train de faire le podcast okay, tout seul. Voilà. C'est très intéressant. Tu es plongé dans ses archives. On va raconter l'histoire de Bradley Barcola. Je précise quand même, attaquant d'1m86, hein, joueur longiligne, coach également, très, très rapide.
Oui, mais justement, des joueurs longilignes qu'il ne faut pas qu'ils fassent l'erreur de vouloir muscler, de ressembler à Tarzan, parce que ça... Ça serait une mauvaise idée et il perdrait toutes ses qualités. Donc il faut muscler, tonique et tout, mais pas trop non plus.
C'est un joueur assez fin, hein, qui a grandi un peu dans l'ombre, notamment de Ryan Cherki à l'académie. Lui, c'était un peu l'inverse, hein. C'était le crack que tout le monde attendait et était pressé de voir éclore au plus haut niveau. Edouard, tu l'as dit. Précision également, Malcolm, tu nous en parles. Barcola, le grand frère, lui, il joue aujourd'hui en Bosnie, hein, en division 1 bosnienne. Il n'a jamais eu sa chance dans le groupe pro, le grand frère de Barcola. Et donc tu l'as dit, c'est intéressant, c'est pas Laurent Blanc qui l'a lancé. Ça nous avait peut-être échappé, c'est Peter Bosz. La saison dernière, hein, il avait déjà fait 13 apparitions discrètes en Ligue 1, en Ligue Europa. Aucun but, deux passes décisives. Premier match en pro le 4 novembre 2021, 8 minutes en Europa League contre le Slavia Prague. Toi, tu te souviens de lui déjà il y a un an et demi, Edouard, ou pas?
Oui, parce que en fait, vous savez, à l'académie, on nous dit voilà, il y a des jeunes qu'il faut surveiller. Celui-là, il va arriver, oui. Il va y aller doucement. Et lui, franchement, sur mes notes, c'est la patience, quoi, en fait. Franchement, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Il est vraiment allé tout doucement et moi, ça me rappelle un petit peu toutes les évolutions d'un Corentin Tolisso, d'un Jordan Ferry ou Nabil Fekir qui sont aussi passés par la case Europa League à l'époque avec Rémi Garde en 2014. Ben là, c'est un petit peu ça. Il y a de la Youth League aussi. Il a été buteur en Youth League. Il y a en National 2 aussi. Il a fait des matchs avec des buts. Voilà, à chaque étage, en fait, il a marqué son territoire. Il n'est pas passé d'une catégorie à l'autre, voilà, à grandes enjambées. Mais ces marches par marche, step by step, eh ben, elles ont été constantes et ça nous dessine une évolution vraiment lente, mais régulière, mais efficace.
Et donc Laurent Blanc a débarqué en octobre dernier après le départ, le limogeage de Peter Bosz. Et le talent du jeune attaquant ne lui est pas sauté aux yeux. Écoutez ce qu'il disait a posteriori le 17 mars dernier.
Bradley, pour être arrivé là en début de saison, bon, ok, hein, mais voilà, je ne l'ai pas vu. On ne l'a pas vu de suite, Bradley. Il n'a pas donné le maximum ou ce qu'il est en train de donner aujourd'hui. Il nous l'a pas fait voir de suite. Ou alors, nous, on ne l'a pas vu, peut-être. Mais là, alors, si on ne le voit pas, c'est qu'on est. Il y a un problème de vue.
Il ajoute, hein, peut-être que c'est aussi nous.
Ah, il voulait dire aveugle.
Nous ne l'avons pas vu. Peut-être un coach. Hein.
Oui, mais bon.
Il est honnête, hein, Laurent Blanc.
Non, mais je trouve que c'est sympa ce qu'il dit.
Ça arrive ce genre de profil, coach, quoi, de gamin qui sort du centre comme ça, qui a une progression linéaire, que tu ne vois pas vraiment dans ses premiers entraînements professionnels et qui, en fait, très vite se révèle.
Oui, mais bon,
après. Spectaculaire.
Tu sais, Nicolas, tu es tous les jours. Donc, tous les jours aux entraînements, tu ne peux pas le rater. Si tu fais un entraînement par semaine et que ce jour-là, ben, il est dans une mauvaise journée avec un problème scolaire, ou je sais pas, évidemment que tu ne le vois pas. Mais là, tu le vois tous les jours, donc il peut pas t'échapper. Donc, c'est impossible. Et après, ben, ne pas aller trop vite non plus, ne pas, comme on connaît ce dicton, brûler les étapes, voir un petit peu, en discutant avec lui, là où il se sent le mieux. Il y a un problème pour moi à régler, c'est un problème de côté, même s'il peut jouer sur les deux côtés et permuter en cours de match, il y a le côté préférentiel. Je pense qu'il est beaucoup plus redoutable côté gauche que côté droit, ce qui n'empêche pas qu'une action côté droit, il est capable de le faire avec un centre, mais pour marquer, il sera plus facile pour lui de marquer en étant
quand il rentre faux pied,
côté gauche, voilà. Et qu'il ouvre aussi, il y a deux super arrière latéraux du côté de Lyon dans cet effectif. Tu as Tagliafico d'un côté et Koumbédi de l'autre. Donc si par exemple tu formes des duos avec, dans l'organisation de Laurent Blanc, si c'est le 4-3-3, puisqu'il y a deux organisations chez Laurent, donc si tu formes des duos, ben, le duo Tagliafico-Barcola, donc je ne sais pas s'il sera supérieur, mais en tout cas, je ne le vois pas inférieur au duo Cherki et Koumbédi. Donc là, c'est un truc à creuser, c'est quelque chose de très important, mais c'est quand même là des zones qui seront, dans les semaines et les mois à venir, certainement redoutables pour Lyon.
Et voir la saison à venir, hein, pour ce jeune joueur, Bradley Barcola. Tu le disais tout à l'heure, Edouard, avant que je te coupe, je me suis permis, sans le départ de Carl Toko Ekambi, on n'aurait pas vu Barcola. Il avait demandé à être prêté lui-même, d'ailleurs. Parce qu'il avait pas assez de temps de jeu.
Parce que, ouais, il n'avait pas assez de temps de jeu, surtout que ça lui avait donné un petit peu d'appétit, bien évidemment. Les premières titularisations au mois de mai dernier, et puis il y a un changement de coach. Forcément, il n'est pas titulaire. Il y a Matteo Stété, il y a Carl Toko Ekambi. Et puis, en fait, il y a cette volonté au Mercato de régénérer le vestiaire. Donc, Carl Toko Ekambi part, Matteo Stété. Et puis, Romain Febvre aussi, d'une certaine manière, qui jouait un petit peu. Donc, ça libère des places. D'autant que même si on recrute Amin Sarr et du côté de Jeffinho, du côté de l'OL, ben, le temps que ces joueurs s'adaptent, et on le voit, hein, pour l'instant, ils ne sont pas encore adaptés, ben, il y en a un qui s'est bien adapté, c'est parce qu'il était là, en l'occurrence, c'est Bradley Barcola. Donc, il a su aussi saisir cette chance et de l'instant, et je pense que ça a plu aussi à un moment donné. Mais ce qui est le souci, c'est qu'à un moment donné, au niveau du club, au niveau de l'académie, on savait qu'il allait percer à un moment donné. Il fallait qu'il y ait cet alignement de planètes. Et puis, finalement, il y a eu avec ce départ d'un certain nombre de joueurs au mois de janvier. Puis lui, il a éclos à ce moment-là, parce qu'il aurait pu aussi complètement être paralysé par l'enjeu, par tout ça. Mais non, finalement, il a... Mais pourquoi ? Parce qu'il a déjà... 2022, il a 20 ans passé. Hein, donc, même si c'est jeune, ben, il a quand même déjà un peu d'expérience.
Il fallait jouer, t'as raison. Il
fallait jouer. Et puis, voilà, comme je vous le disais, il a fait toutes les étapes. Les U19, la Youth League, la National 2, donc il s'est un petit peu acclimaté à... Et puis surtout, en match de Coupe de France, il a joué quand c'était Metz, c'était de la Ligue 2, Chambéry, c'était de la National 2, donc c'était quelque part un petit peu au niveau de ce qu'il jouait avec la National 2, donc c'était pas de la Ligue des Champions.
C'est une bonne transition, exactement pour lui.
Voilà, une bonne transition, voilà.
Bon, je rappelle qu'en 2022, hein, sur le premier semestre, il avait joué que 74 minutes pour 8 entrées en jeu, et là, il reste sur 12 titularisations consécutives avec Laurent Blanc. Coach nous a parlé de ce joueur, la marge de progression, évidemment, on ne peut pas y répondre, on ne peut pas savoir ce que ça va donner. En revanche, quelles sont les qualités que tu aimes chez lui ? C'est plutôt sa vitesse, sa facilité avec le ballon, aisance technique ?
Ah oui, puis bon, cette qualité de dribble et d'accélération, capable de te trouver des coups francs intéressants, voire même des pénaltys. Non, c'est quand même un joueur talentueux. Et dans un autre effectif, mettons un effectif qui joue le titre.
Ouais.
Mais ce joueur-là, dans cet effectif, il fera partie des 16 joueurs avec qui le coach fait ses matchs dans l'époque que nous traversons avec les 5 changements. Et avoir un Barcola déjà dans les 5 changements, c'est un joker extraordinaire. Mais il ne peut pas non plus se contenter que d'être joker. Il faut que de temps en temps, il soit titulaire aussi, pas obligatoirement 93 ou 94 minutes, mais au moins 60-65, et c'est comme ça qu'il avancera, qu'il progressera sans brûler les étapes.
Pour toi, il est désormais un titulaire à part entière, fin de saison,
dans
et les saisons suivantes.
Dans les 16,
oui. À Lyon, je parle.
Ah oui.
Dans les 16. Pas forcément un cadre encore. On va attendre. Ah
ben après, si on est tatillon, qu'on veut être précis, je te dirais 2 matchs sur 3.
D'accord.
Titulaire. Mais pas obligatoirement 3 matchs sur 3. Mais dans le troisième, il fait quand même les 20 ou 25 dernières minutes.
Il est sous contrat, tu l'as dit, Edouard, jusqu'en 2026. Donc son contrat est bien verrouillé. Si jamais il y a des approches dès cet été, il est aussi un international espoir français, hein, Edouard.
Exactement, il a commencé en U18 et là il est espoir désormais. Alors après, sa nationalité, on va dire sportive, elle n'est pas définitive. Donc j'imagine que peut-être le pays de ses parents, comme son frère, peut peut-être l'attirer à un moment donné.
Le Togo,
donné,
mais pour l'instant,
c'est qui le plus
le
âgé?
Le Togo, en l'occurrence.
Le plus âgé entre lui
c'est
et Cherki.
C'est Malcolm. Ouais, il y a 4 ans d'écart.
Ils ont 1 an d'écart, Cherki. Cherki plus jeune
d'un an. Des frères
de 11 mois.
Oui, non.
Cherki et
Barcola. Un an d'écart. Ouais, un an.
Août 2003 ouais, pour Cherki, septembre 2002 pour Bradley Barcola.
D'accord.
Bon. Voilà. Bon. Comment tu compares ces deux cas justement à l'OL? C'est très différent.
C'est une question de goût. Moi, je trouve ces deux joueurs intéressants. La marge de progression de Cherki, on ne la connaît pas non plus. Mais aujourd'hui, si je suis obligé de décider qui je préfère des deux, je préfère Barcola un petit peu plus que Cherki.
Pour son efficacité,
ça pour tout, je dois choisir, mais je choisis Barcola.
Bon, tu l'as dit, Edouard, effectivement, je rappelle que le sélectionneur du Togo l'a contacté déjà pour l'attirer dans son équipe. Hein. Lui, pour l'instant, il a dit tranquille, j'ai l'Euro espoir à jouer fin juin.
Ce qui ne veut pas dire, je termine ma précision, que je ne compte pas sur Cherki et ses progrès, mais lui aussi, Cherki a des progrès à faire. Qui sont indispensables pour devenir le très bon joueur qu'il doit normalement devenir.
Progrès dans la sobriété, dans la simplicité.
Et puis faire les choses un peu plus, je dirais, classiques, pas à chaque fois compliquées. Allez, ça va, une passe, plaf, elle se fait touche, passe, et pas besoin d'une talonnade obligatoirement. Donc je crois que cette efficacité... Il va falloir que ce soit la copine de Cherki pour le moment, non.
Edouard, tu voulais rajouter un mot là-dessus.
L'éloge de la... juste pour revenir, je vous parlais de l'éloge de la patience, de la discrétion, un entourage avec des parents qui sont très agréables à vivre, calme, discret, c'est ce que j'ai encore sur mes notes quand j'interrogeais un petit peu au niveau du centre de formation. Et d'une certaine manière, cette patience et ce travail, franchement, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un gamin arrive à percer à l'OL ou ailleurs, mais en l'occurrence à l'OL, ce que peut-être certains, à un moment donné, avaient perdu. Donc là, c'est pour ça qu'aussi, au niveau du club, on aime bien cette trajectoire actuelle, parce qu'elle dessine vraiment ce que l'OL veut, c'est-à-dire tout doucettement, faire monter les gamins.
Et chez les supporters aussi, j'imagine, Edouard.
Exactement, chez les supporters aussi. Alors, c'est pas forcément été au niveau Twitter, il y avait plus Ryan Cherki ou d'autres, mais lui était un petit peu à l'ombre. C'est comme ça qu'il finalement il a éclos et que on attend encore beaucoup de lui. Mais c'est vrai que là, il est quelque part, comme on dirait à l'OL, comme on me dit à l'académie, il est dans les temps de passage qu'on attendait de lui.
Merci Edouard, nous a fait découvrir un peu plus Edouard. Bradley Barcola. Merci à toi. Merci coach également. Retour de l'After Lyon la semaine prochaine, bien sûr. Hein, parce que Lyon, peut-être peut caresser l'espoir d'une qualification européenne à 6 points de la 5e place. Sait-on jamais? C'est très compliqué, Edouard.
Ah oui.
Sait-on jamais?
Ah oui, c'est compliqué.
Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.
RMC After Lyon.